Vienne est une ville aimable et quand on la connaît, on y retourne avec le sourire. Suivons ces mots de Milena Jesenská dans Vivre et comme une valse, tournons, retournons à Vienne où l'on voyageait dimanche dernier. Après Vienne, l'esprit de la ville, Vienne, la ville de l'esprit. Dans les sons, les voix, la musique de la ville où séjourner, disait Mozart, est un plaisir à lui seul. Villemonde Vienne, seconde escale, nouvelle diffusion d'une de nos premières aventures Villemonde. Bon voyage sur France Culture sans frontières.
On pourrait appeler cette composition espace moelleux, hein?
Villemonde, Vienne, la ville de l'esprit.
Alors ici, par exemple, j'ai enregistré les sons, le matériel, je l'appelle le matériel pour construire l'espace, avec un type fabuleux qui joue le clarinet de basse, hein? Et j'ai pris une vingtaine d'attaques, de différentes attaques. C'est-à-dire avec air, sans air, plus air et je ne sais pas quoi. Après ça, j'ai travaillé là-dessus pour construire un tissu sonore. Et j'ai ajouté un délai de quelques secondes pour que l'espace devienne assez souple. Évidemment, il y a quelques aspects... pourrait dire qu'il touche la musique, pas question. Mais si on a compris, on a fait le changement nécessaire dans la tête, on entend l'espace et on n'entend plus la musique.
L'esprit de Vienne a toujours été associé à celui de la musique. Haydn, Mozart, Schubert, Mahler, Schoenberg, les musiciens hantent la ville. Tous y ont leur plaque, leur rue, leur place, leur maison. Mais le génie musical à Vienne s'exprime aussi dans la poésie, dans la philosophie, dans cette incurable joie de vivre même par temps sombre. Souvent subversif, parfois mélancolique, toujours ironique, les artistes y cultivent une très ancienne tradition, celle d'un certain esprit viennois. Bernhard Leitner n'est pas musicien. Ce viennois de 70 ans cherche plutôt à émanciper le son de la musique. Véritable pionnier de l'architecture sonore, il sculpte les sons comme un matériau plastique.
Bernhard Leitner, vous êtes né dans quelle région d'Autriche ?
Le Tyrol. C'est l'ouest de l'Autriche.
En quelle année ?
38.
Une période un petit peu... En tout cas, une date très sombre.
Une date très sombre et... Mais je n'ai pas de souvenir de la guerre.
Est-ce que vous diriez que dans votre travail, il y a une trace sonore de ce paysage de votre enfance que vous avez finalement quitté assez tôt pour aller faire vos études dans la capitale qui est Vienne ?
C'est difficile à dire. Je crois que c'est vraiment à Vienne où j'ai fait mes études d'architecture que j'ai découvert d'abord la musique... l'école viennoise de Schoenberg, Berg et Webern, c'était très important. J'étais certainement influencé par la pensée moderne de Vienne de 1900-1910, c'est-à-dire Karl Kraus, Wittgenstein, évidemment, la littérature, c'est-à-dire tout l'esprit de cette modernité a vraiment influencé ma formation à Vienne. Et je crois que c'est une des racines, une des sources pour mon travail. Tout d'un coup, dans le cerveau, il y avait cette idée qui s'est cristallisée, vraiment, pourquoi pas travailler avec le son comme un matériau, comme le bois, comme la pierre, comme le verre.
Voilà un espace pétillant. Et maintenant, je vous montre un autre espace. Je vous fais écouter un autre espace.
Friedrich Zehra est né à Vienne il y a 85 ans. Il est l'exemple même du moderne viennois. Ouvert aux sciences, nourri de philosophie, ami des poètes et peintre à ses heures. Il nous reçoit dans sa villa, sur les hauteurs de Vienne, en bordure de la forêt viennoise.
Friedrich Zehra, vous êtes l'un des plus grands compositeurs autrichiens actuels. Vous êtes né en 1926. Quelles traces ont laissé votre enfance et votre adolescence dans cette ville, dans votre travail ?
Les événements historiques ont très fortement marqué ma jeunesse et les années qui ont suivi. En 1934, en Autriche, et tout particulièrement à Vienne, il y a eu une guerre civile. Mon père m'avait emmené sur les lieux des affrontements. Il y avait tout ce sang dans les rues et il m'a dit « Tu vois ce que les hommes sont capables de faire à d'autres hommes. » Cela m'a mis la puce à l'oreille, cela m'a rendu attentif aux événements politiques. Je suis ensuite devenu un antifasciste passionné. J'ai déserté deux fois de la Wehrmacht. Dès le début, je ne me suis jamais senti comme un membre intégré de la société. Je lui faisais plutôt face. Cela m'a forcé à réfléchir sur moi-même, mon individualité, et à me forger ma propre identité. Plus tard aussi, cela m'a profondément marqué quand, dans les années 60, on m'a attaqué ici à Vienne, quand on m'a reproché d'être l'inventeur d'un nouveau son, le destructeur de la tradition, ce que je n'ai jamais été.
Friedrich Zehra, vous parliez des années 60. Est-ce qu'il y a eu à Vienne une Stunde Null, une heure zéro pour la musique ? Et est-ce qu'il y a eu un exil de l'esprit musical à Vienne ?
Vous savez, les jeunes musiciens en Autriche, pendant la guerre, et même avant, sous l'état corporatiste à moitié fasciste, étaient complètement coupés du monde. Après la guerre, il y a eu beaucoup de choses à rattraper. Et cette conscience qu'il fallait rattraper les choses, que l'on avait raté quelque chose, était très très forte dans les premières années d'après-guerre. Nous, autres jeunes musiciens, nous avons formé une sorte d'underground. Comme les scènes publiques nous étaient fermées, nous avons organisé nos concerts dans des cafés, des magasins de tapis, des bars.
Lokalen Konzerte gemacht. Und wir haben uns entschlossen, man müsste also in Wien was tun.
Nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose à Vienne, faire quelque chose en Autriche. Nous avons alors formé l'ensemble Die Reihe.
Alles, was es damals an neuer Musik gibt in Wien, also
et nous avons présenté tout ce qu'il y avait de nouveau à Vienne durant les 10 années qui ont suivi.
Ganz bewusst auch zurückgegriffen auf die Wiener Schule.
Nous avons aussi bien sûr consciemment puisé dans l'école de Vienne, Schönberg, Berg, Webern, qui avaient été et continuaient à être totalement exclus ici. Dans ce sens, nous étions tout à fait dans une tradition.
Frédéric Zerat, qu'est-ce que c'est pour vous composer ?
Composer, c'est dans mon cas, depuis l'enfance, c'est un besoin organique. C'est comme respirer. On ne peut pas demander à quelqu'un pourquoi respirez-vous. Composer a toujours été pour moi un élément vital. Je dois cependant préciser que la plupart de mes idées, des trouvailles de mon imagination me viennent le matin, quand je ne suis plus dans un profond sommeil, mais que je ne suis pas encore tout à fait réveillé.
Wenn ich nicht mehr tief schlafe, aber noch nicht ganz wach bin, das ist also die fruchtbarste.
C'est le moment le plus fructueux pour moi.
Vous avez été longtemps solitaire et pas reconnu à la hauteur de votre talent. Il faut une sacrée Hartnäckigkeit, une opiniâtreté pour être un artiste ici.
Ja, Hartnäckigkeit, Konzessionslosigkeit auch.
Opiniâtreté, oui, et refus de la concession aussi.
Eigen. Dabei hat mich wenig tangiert die.
Mais je n'ai jamais été touché par l'aversion, le rejet dont on fait preuve à mon égard. Et c'est pourquoi je reste tout aussi imperturbable face à l'engouement que l'on me témoigne aujourd'hui.
À quoi allez-vous rêver demain matin ?
Aujourd'hui, je n'ai rêvé de rien.
Les mains jointes, écrit Yanis Ritsos, numéro de téléphone Anna J. À côté, c'était une impulsion. Mon illusion griffonnage, manège, griffonnage. Au milieu du mois de juillet, boucle dans l'œil, hélas, nuage dans l'œil. Petit moineau dans l'estival, feuillage, nuage vert sur ta langue. Nous gravissons le raidillon estrogé, banderole dans le vent, gracieusement les pieds dans le bois mort. Les cintres en fil de fer contre le bâton ouvert.
Friedrich Mayröcker vit depuis 87 ans à Vienne. Elle est la voix poétique par excellence. Dans sa minuscule mansarde jonchée de livres et de fiches, elle écrit, comme elle vit, entre euphorie et mélancolie, intuition et réflexion, des poèmes instantanés, très élaborés.
Friedrich Mayrecker, vous habitez à Vienne depuis des années et dans un de vos textes, vous dites combien vous êtes attaché à cette ville, combien vous lui faites confiance et en même temps combien vous ne l'aimez pas, combien elle vous écœure parfois.
Ich wohne wirklich gerne, ich lebe sehr gerne in Wien.
J'apprécie vraiment, j'aime vraiment habiter Vienne, vivre à Vienne. Tout y est familier, on est habitué à tout, on n'est perturbé par rien, par je ne sais quel événement soudain. J'ai vécu un peu plus d'un an et demi à Berlin, je m'y suis beaucoup plu, mais je ne pouvais pas écrire là-bas. À Vienne, l'avantage justement, c'est que tout m'est familier ici et que je peux y travailler.
Dans votre œuvre, Friedrich Mayrecker, il y a beaucoup de musique, beaucoup de noms de musiciens qui sont évoqués. Est-ce que la musique joue un rôle dans l'écriture même de votre poésie ?
Pour écrire, j'ai avant tout besoin d'écouter du Bach. Et tout particulièrement ces derniers mois, du John Dowland, naturellement. J'ai un morceau préféré que j'écoute en boucle et je me demande souvent, est-ce que je ne vais pas m'en lasser ? Mais non, parce qu'il correspond totalement à moi. Il est très mélancolique. Je continuerai à écouter John Dowland.
Wie Ästchen im Wind, zitternden Verse. Vielleicht solltest du in dieser Musik fortfahren, schreibe ich an Michael Vogel. Der Brünettenteller im Sand. Abstrakt, sage ich.
Dans un de vos textes, Friedrich Mayrecker, vous dites: je suis à la fenêtre de ma maison. Et c'est là que je suis dans mon costume de lumière. Est-ce que vous décrivez par là l'état par lequel le poème devient possible ?
Je suis à la fenêtre et je regarde le monde extérieur. Sans le monde extérieur, je ne pourrais rien écrire.
Et c'est quoi ce costume de lumière ? C'est l'inspiration ?
Oui, cela pourrait être l'inspiration. J'ai écrit cela il y a si longtemps, il y a tant d'années. Mais c'est une belle interprétation, l'inspiration comme costume de lumière.
Et vous écrivez toujours de façon euphorique, comme vous l'avez dit un jour. Tous les jours.
Non, pas tous les jours, mais tout de même, très souvent. Il y a quelque chose d'euphorique là-dedans, naturellement. Comme je l'ai dit auparavant, cela maintient en vie. Quand je ne peux pas écrire durant un certain temps, je suis très abattue. Mais la pluie m'aide beaucoup.
Hier, on a enregistré une pluie magnifique.
Enregistré la pluie.
En 2004, juste après l'obtention de son prix Nobel, une autre grande voix de la littérature autrichienne, Elfriede Jelinek, m'avait confié combien elle se sentait viennoise, du moins au sens poétique du terme. Comme Friedrich Mayröcker, Elfried Jelinek écrit dans cet écart où la langue l'entraîne et où elle entend bien rester.
Les Français ne connaissent pas bien la signification de votre nom. Jelinek, ça veut dire quelque chose.
Le cerf. Le petit cerf.
Le petit cerf.
Hirschel, en juif.
C'est un nom d'origine tchèque.
Tchèque et juif. Alors, Hirschel
sont des noms juifs tchèques très courants.
Comme beaucoup de familles viennoises, votre généalogie est compliquée.
Ja, wie bei den meisten Wienern vor allem.
Oui, comme la plupart des gens ici, surtout à Vienne. Dans la partie orientale de l'Autriche, nous sommes tous issus d'un mélange d'ethnies et de religions. C'est un brassage de migrations. Chez moi, le mélange est juif, balkanique et tchèque. On trouve aussi un peu de vieille tradition viennoise, où l'élément juif est également très présent. L'écrivain Peter Turini a dit un jour des Autrichiens qu'ils aimeraient bien être des bergers allemands, mais qu'ils ne sont que des petits bâtards de compagnie.
Vous êtes d'ailleurs défini comme un « östlicher Mensch ».
Ja, ich bin, ich würde sagen, dass das Slawische doch sehr stark ist in meiner Literatur. Also das ist die.
Oui, je dirais qu'il y a une présence slave très forte dans ce que j'écris.
Man könnte sagen Kafka,
c'est cette tradition Kraus, avec also Kafka et Karl Kraus qui vient en fait des Juifs allemands de l'Est, d'un brassage culturel juif-allemand.
Vous avez perdu près de 50 membres de votre famille pendant la Shoah.
Ja, nur ich habe die, das weiß ich von meiner Cousine, die
stärker integriert. Oui, je l'ai appris par ma cousine qui était davantage intégrée à cette branche de la famille que moi. Et dont le père en a fait un jour le recensement. J'ai eu très peu de contact avec la famille de mon père, et je n'ai d'ailleurs fait la connaissance de mes cousines qu'il y a quelques années.
De façon générale, il n'y a pas de personnage d'enfant, il n'y a pas, même la période de l'enfance n'est pas présente dans votre œuvre. Vous attaquez plutôt à ce qui détruit l'enfance.
L'enfance en tant que telle n'existe pas pour moi, parce que je n'ai jamais eu le droit d'être un enfant. Je trouve les enfants sympathiques à regarder, mais je n'ai aucune affinité avec eux, parce qu'en réalité, j'ai été très tôt un enfant adulte.
Il y a quand même un souvenir sur lequel vous revenez, que vous avez décrit assez tardivement. C'est ce souvenir d'un film que votre père vous fait voir très tôt, enfant, c'est la confrontation avec les montagnes de cadavres de la Shoah.
Ja, das hat, er hat mich sozusagen
oui,
sehr früh in
mon père m'a emmené très jeune voir des films, à un âge où je ne pouvais en fait percevoir les choses qu'avec effroi, sans aucune analyse. C'était des films du genre de Mein Kampf, des documentaires qui montraient les camps à leur libération, avec ces montagnes de cadavres, ces amoncellements gigantesques d'êtres humains à demi-morts de faim et totalement anéantis. Ce fut naturellement un choc pour moi. Mais mon père m'imposa ainsi très tôt un devoir de conscience, celui d'aider à ce qu'une telle chose ne puisse jamais se reproduire. C'est mon thème, au fond. On le retrouve dans mon roman « Les enfants des morts ».
On a l'impression ici que vous redessinez une montagne à vous, vous redessinez une géographie de votre pays, de la Heimat.
Heimat als das Unheimliche, also auch als das Gegenteil.
Je redessine le pays natal comme quelque chose d'étranger et d'inquiétant, comme le contraire de ce qui est familier. Je vais rechercher dans ce joli pays de montagnes les montagnes de cadavres qui gisent enterrés dessous. C'est sous les montagnes de l'Autriche entière que gisent les morts de l'histoire auxquels on a tout pris. Au-dessus d'eux reviennent planer les fantômes des morts, les enfants des morts. Cette montagne est tout ce qui reste des camps, les camps de Staline aussi. Les lunettes sont les premières choses que l'on y a retrouvées. Elles sont tout un symbole, celui de l'intelligence,
toutes ces choses qui dépassent
l'entendement.
C'est indicible, tout ce que l'on ne peut pas penser, il faut l'écrire. L'impensable, il faut l'exorciser dans l'écriture, comme par une sorte de conjuration du sort, pour que le cerveau n'explose pas.
Récemment, vous avez dit « Je suis la Trümmerfrau der Literatur ».
Oui, je suis la femme des décombres. Je ramasse encore et toujours les débris.
Je dirais aussi que c'est votre humour fantastique qui vous sauvera toujours.
Vielleicht, ja. Also, dass die Sachen, auch das wird übrigens nicht immer gesehen, aber das
peut-être, oui.
Dass der Witz, der ja das subversivste.
C'est une chose que l'on ne voit pas toujours chez moi. Cet humour qui est ce qu'il y a de plus subversif. Freud a bien montré quelle relation il avait avec l'inconscient. En tout cas, il l'a suffisamment pris en compte pour lui consacrer l'un de ses traités.
Dinge verarschen kann, wenn man hier sagt, dass ich es immer noch ins Lächerliche ziehen kann.
On ne voit pas toujours que je déconne. Que je tourne les choses en dérision, mais qu'elles n'en sont finalement pas moins terribles. Parce que derrière l'humour réapparaît toujours l'effroi, me semble-t-il. Je crois que tout le monde n'a pas le sens de l'humour, surtout pas les Allemands qui ont entièrement décimé et expulsé la culture juive. Il ne peut plus être question d'y faire la moindre allusion. Ils ne la comprennent tout simplement pas.
Est-ce que vous allez vous maintenir à l'écart ?
Pour ma part, je n'ai plus le choix aujourd'hui. J'aimerais pouvoir rester tranquille dans cet écart et si possible que l'on ne vienne pas m'y chercher.
C'est peut-être cela au fond, l'esprit viennois, une façon très sérieuse de jouer avec les mots. Bernhard Leitner le sait bien, lui qui a sauvé de la destruction la maison du philosophe du langage, Ludwig Wittgenstein.
C'est une espèce de sensation.
Sauver les choses avant qu'elles soient détruites.
Sauver la maison de Wittgenstein, c'était une sensation. C'est une sensation assez personnelle. Et on a eu de la chance vers la fin. Mais pendant 2 ans, j'ai travaillé presque tout seul, contre la ville, l'économique, les spectaculaires,
les spéculateurs,
tout ça. La maison existe toujours.
La maison existe toujours, donc un peu d'esprit de Wittgenstein existe toujours, grâce à toi.
Où ?
À Vienne.
Oh, je crois à Vienne, il existe un esprit de la langue. Et les Viennois jouent avec la langue. Je trouve que la langue, c'est très important pour les Viennois. Et ça, je trouve, c'est très typique pour Vienne. Et l'esprit, c'est comme il y a 200, 300 ans, je pense, avec Nestroy, tu as cet esprit. Jouer avec les mots, découvrir quelque chose derrière les mots. Même M. Freud, il a travaillé avec ça et comment. Il a entendu un mot et il a eu immédiatement une réflexion. C'est-à-dire cette esprit combinatoire avec les mots. Et c'est un jeu. Un jeu assez critique. Un jeu sérieux, en même temps pas sérieux. C'est toujours la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est par exemple ce doppeltalent, ce double talent. Hein? Schoenberg, qui compose, en même temps il fait de la peinture. Kokoschka, il peint et il écrit des pièces.
Voilà.
Et Wittgenstein, il est philosophe, il construit une maison.
Et il joue de la clarinette.
Et il joue de la clarinette en plus. Alors ça, je trouve, ça montre quelque chose de l'esprit viennois. C'est curiosité et en même temps, on laisse quelques portes ouvertes. Hein?
Jamais de système fermé.
Pour s'enfuir, si c'est nécessaire.
Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht.
Plus rien.
Da gibt's nicht mehr. Was soll da noch mehr sein?
Que pourrait-il y avoir de plus?
Also mehr gibt's da wirklich nicht.
Franz Schuh est le penseur viennois par excellence. Feuilletoniste de renom, poète à ses heures, il se définit lui-même comme un joyeux mélancolique qui se plaît à dissoudre les réponses sous un amoncellement de questions.
Franz Schuh, qu'est-ce que c'est que penser pour vous?
Penser pour moi, c'est rouler et pousser des montagnes de problèmes, escalader certaines de ces montagnes et redégringoler de ces montagnes en jetant un œil déconcerté vers le sommet. C'est en quelque sorte l'éternel travail de Sisyphe.
Est-ce que Vienne est une ville propice à la pensée?
On ne peut voir les choses que de manière ambivalente. Vienne est une ville qui peut favoriser la réflexion, mais qui peut aussi tout simplement tuer ceux qui essayent de penser. Il existe bien entendu des traditions de pensée à Vienne, mais il existe aussi un désintérêt traditionnel à l'écart de la pensée qui est très fatigant. Des intérêts surtout à l'égard de la pensée des autres.
Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un esprit viennois?
Ich glaube nicht, dass es einen Wiener Geist gibt.
Je ne crois pas qu'il y ait un esprit viennois.
Dieser Ausdruck Geist ist ja im Deutschen.
D'ailleurs, ce mot « Geist » en allemand a de multiples significations. On parle aussi, par exemple, de l'esprit de vin, et l'on caractérise par là le moyen de provoquer un certain type d'ivresse. Je crois que nous assistons vraiment maintenant à la disparition progressive d'une certaine façon de penser, ou d'une certaine façon de vivre typiquement viennoise. Nous sommes, du fait de l'Union européenne et des changements provoqués par la mondialisation, définitivement reliés à tout le reste du monde.
Franz Schuh, vous avez dit que Vienne était une ville finalement beaucoup trop bequem, beaucoup trop agréable. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est pour combattre cette Bequemlichkeit que vous avez besoin de vous réveiller avec l'ironie?
Ich denke, das ist ein Erbe auch der Traditionen in dieser Stadt.
Je pense qu'il s'agit là d'un autre aspect de l'héritage traditionnel de cette ville. Cette atmosphère agréable, cette convivialité qui semble en apparence prédominer. Car les choses ont beau avoir un aspect léger, le rôti de porc a beau être merveilleusement piqué, il faut quand même bien digérer la graisse.
Das Fett muss man auch erst mal verdauen.
Mais celui qui se laisse entraîner dans ce merveilleux piège de la mélancolie, de la dépression, de la folie des grandeurs, de l'insécurité, du ressentiment et surtout du mépris réciproque, celui qui se laisse entraîner verra combien cette atmosphère agréable est difficile à supporter.
Thank you.
Geiger n'a pas connu la chute de l'Empire austro-hongrois ni les heures sombres de l'Autriche nazie. Il n'en a pas moins vécu la fin d'un monde, quand le rideau de fer est tombé à quelques kilomètres de la capitale autrichienne. Ouverte, incertaine, mouvante, Vienne est alors redevenue pour lui ce qu'elle a toujours été, un lieu idéal pour tourner en rond. Arno Geiger, est-ce que vous diriez qu'il y a un esprit viennois ?
Oui, je pense que cet esprit existe toujours. Le problème est plutôt de réussir à le distinguer quand on vit dedans et qu'on en fait partie d'une certaine manière. Mais on le sent. Les gens disent que Vienne sera toujours Vienne et que c'est la pire des choses dans cette ville. Mais ce n'est pas aussi terrible que ça en a l'air, car les choses glissent doucement quand elles avancent lentement. Et puis, il y a aussi quelque chose de facétieux à Vienne. C'est une autre tradition positive de cette ville. Il y a ces lentes glissades, mais il y a aussi tous ces mouvements en rond. C'est une merveilleuse ambivalence. D'un côté, ce lent mouvement vers l'avant, parfois contre-cœur, il faut bien le dire, et c'est ce que je reprocherais à cette ville. Et de l'autre, ce côté joueur et même nihiliste que l'on retrouve dans la valse. Car il y a bien quelque chose de nihiliste dans cette manière de tourner en rond. Mais moi, cela me plaît qu'on n'aille pas toujours de l'avant et que l'on préfère tourner en rond comme un enfant.
Wie ein Kind.
Oui, les enfants aiment bien tourner en rond.
Pour moi, c'est une incarnation de la liberté.
Et ce côté joueur, on le retrouve dans la valse,
dans l'art et dans la littérature de ce pays. Dans votre roman « Tout va bien », vous plongez dans la ville de Vienne comme dans une vieille villa du passé. Est-ce que la littérature, pour vous, comme d'autres écrivains, surtout juifs, est liée à cette recherche du passé?
Pas particulièrement. Un pays a sa propre profondeur biographique, historique. Pour bien comprendre le présent, il est indispensable de connaître le passé. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'aujourd'hui. Ce sont mes contemporains. Je ne suis pas viennois de naissance. Et c'est à peine si j'ai une culture viennoise. Après 25 ans, j'ai encore l'impression d'être arrivé ici par hasard. De ne pas appartenir à cette ville, au sens le plus étroit du terme. Et ce qui stimule mon imagination, c'est précisément ce sentiment d'être à la marge, d'être un phénomène marginal.
Et dans quelle langue écrivez-vous ?
J'écris dans ma deuxième langue, pour ainsi dire. J'ai grandi dans le dialecte, à la frontière avec la Suisse, où l'on parle le vieil alémanique. C'est un dialecte qui n'a pas grand-chose à voir avec l'allemand standard. Même s'il y a bien sûr des liens de parenté. L'allemand, pour moi, c'est comme Vienne. Ce n'est pas vraiment ma langue maternelle. C'est quelque chose qui est à ma disposition, comme Vienne est à ma disposition. Et c'est merveilleux de savoir que je peux toujours me retirer au sein même de ma langue maternelle et retrouver un dialecte qui n'est pas usé par le travail, par la pensée de la langue. Le dialecte est pour moi comme l'eau que je bois.
Est-ce que vous diriez que vous êtes l'enfant éternel de Vienne ?
Je ne sais pas.
Je
n'aurais rien contre si l'on voyait en moi quelqu'un qui a conservé toute son innocence et sa candeur enfantine. J'ai toujours éprouvé la nécessité de mieux comprendre le monde et j'ai toujours ressenti que je ne le comprenais pas. Il faut réussir à se l'avouer à soi-même et cela demande du courage. Mais c'est peut-être cela qui caractérise mon être et mon écriture, n'avoir aucune certitude.
Robert Ménas est né à Vienne en 1954. Son père, célèbre footballeur, avait dû fuir l'Autriche alors qu'il était enfant. Ménas appartient donc à cette seconde génération, celle qui est venue après la guerre, après la Shoah, après le retour des survivants. Sao Paulo, Amsterdam, Bruxelles, Ménas doit sans cesse fuir Vienne pour créer cette distance ironique et critique sans laquelle il n'écrirait pas. Dans son atelier de la Girardie Gasse, Robert Ménas fume cigarette sur cigarette. 70 ans après Stefan Zweig, portrait d'un autre Viennois, européen convaincu.
Robert Ménas, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a deux ou peut-être trois lieux de votre enfance viennoise qui sont marquants ?
Oui, c'est juste. D'abord le stade de foot. À cause de mon père qui était un joueur de foot professionnel. Et puis il y a eu l'internat, qui a été aussi un lieu important d'un point de vue biographique. Personnellement, je m'en serais bien passé. Depuis l'âge de 6 ans jusqu'à ma 18e année, j'ai pratiquement passé toute mon existence dans un établissement fermé, derrière des murs, ici, à Vienne. Et ça me fait toujours rire quand on me demande si j'ai grandi à Vienne, car d'un côté je suis obligé de dire que oui, mais je vivais derrière les murs. Certes, j'étais à l'internat, mais j'aurais pu tout aussi bien me trouver sur Mars. Je ne percevais rien de Vienne, je ne découvrais rien de Vienne, et je ne connaissais absolument rien de Vienne lorsque j'ai quitté l'école à l'âge de 18 ans. C'est un phénomène très caractéristique de l'Autriche. La grande majorité des écrivains, pas seulement aujourd'hui, mais si l'on regarde bien tout au long du XXe siècle et jusqu'à maintenant, tous les artistes importants, qu'ils soient écrivains ou poètes, ont fait l'expérience de l'internat. Et c'est précisément ces gens-là qui ont le plus de facilité à penser au-delà des évidences.
Et la cuisine de votre grand-mère ?
Grand-mère cuisinait tout le temps. J'étais assis à côté d'elle dans la cuisine et je l'écoutais qui me racontait des histoires. Et elle m'en a beaucoup raconté. C'est comme ça que, bien qu'étant à l'internat et totalement coupé de la réalité extérieure, j'en ai beaucoup appris sur Vienne, sur l'Autriche, mais aussi sur l'Europe, car les problèmes de cette génération n'étaient pas des problèmes locaux.
Robert Ménas, est-ce que vous considérez comme un écrivain typiquement juif et viennois ?
Je me considère comme un écrivain juif et viennois, dans la seule mesure où les deux choses s'annulent réciproquement. Comme ça, je suis une page totalement blanche sur laquelle n'importe qui peut écrire ce qu'il veut. Ça me fait un effet étrange d'être catalogué comme appartenant à la tradition juive, ou bien de me retrouver, en raison de mes origines, dans le dictionnaire des écrivains juifs de langue allemande. Moi, je suis un juif de culture, si tant est que la tradition juive joue un rôle chez moi. C'est seulement une question d'ordre culturel. Et certainement pas religieux. Ce qui me manque à Vienne, et pas seulement en moi, ce qui manque objectivement à Vienne, c'est ce judaïsme assimilé qui a existé en Autriche avant d'être chassé et physiquement anéanti par les nazis. Dans mon roman, Machine arrière, j'ai raconté une histoire qui illustre assez bien mon rapport à cette question. Cela raconte l'histoire d'un homme d'origine juive qui, d'un côté, par mauvaise conscience ou fidélité à ses origines, tente de maintenir certains rites, mais qui de l'autre n'y croit pas vraiment et ne les connaît pas vraiment. Comme par exemple la séparation de la vaisselle. Les juifs séparent la vaisselle qui sert à la viande de celle qui sert au lait. L'homme a donc deux services de vaisselle à la maison. Ces deux services sont absolument identiques. Dès lors, quand sa femme amène quelque chose sur la table, il ne peut jamais être sûr qu'il s'agit là du bon service. Il a donc sans arrêt mauvaise conscience. Un jour, il finit par soupçonner que les services ont été mélangés. Il les casse de rage et va en acheter deux neufs, qui sont rigoureusement identiques. C'est dans ce sens-là que je suis juif.
Des milliers d'émigrés arrivent aujourd'hui à Vienne. Des dizaines de milliers en ont été bannis. Georg Stefan Troller a quitté Vienne un jour de novembre 1938. Lui qui n'a jamais pu revenir s'y établir, incarne peut-être de la plus belle des manières la vitalité de l'esprit viennois. Georg Stefan Troller, ça fait 90 ans à peu près, ou même exactement, que vous êtes né à Vienne. Et c'est pourtant à Paris, dans le 7e arrondissement, que l'on se rencontre aujourd'hui. Vienne est une ville que vous avez dû fuir.
Oui, une ville aimée que j'ai dû fuir. La ville de mon enfance. J'y étais jusqu'à presque 17 ans et c'était dur. Je rencontrais beaucoup de réfugiés dans ma vie, berlinois, etc. Tous, ils aimaient la patrie, mais il n'y avait personne qui aimait la patrie comme les Viennois l'aimaient. Mmh.
Vous avez donc quitté cette ville comme beaucoup de Viennois en 1938.
En novembre, juste après la nuit de cristal, que j'ai vécu.
Georg Stefan Troller, vous avez donc émigré, vous avez rejoint les USA et vous avez essayé de ce qu'on appelait rémigrer, c'est-à-dire revenir au pays natal. Et vous n'y êtes pas parvenu comme beaucoup d'autres.
Je suis revenu en 1949 pendant deux mois comme étudiant. Je ne peux pas dire que c'était répugnant. C'était mixte comme tout est mixte à Vienne. Je veux dire, c'était quand même la ville de mon enfance, de mes amours, mais aussi la ville qui a tué toutes mes relations, ma famille, etc. Et qui était convaincue, et c'est ça qui était le plus étonnant, qu'Hitler avait raison, que malheureusement ça n'a pas marché. Donc, la prochaine fois, ça marchera. Et ça, c'était insupportable. Il n'avait rien compris. Il ne voulait pas comprendre.
Vous dites aussi que si vous avez perdu votre patrie, enfin votre Heimat, qui est un mot plus joli en allemand, vous n'avez jamais perdu votre patrie spirituelle. Qu'est-ce que c'est votre patrie spirituelle?
Peut-être l'esprit viennois. Ça veut dire cet esprit un peu mi-croyant, mi-cynique, mm-hmm. mi-idéaliste, mi-réaliste, esthétique. Définir les choses plutôt que les sentir, ou en même temps qu'on les chante, très important. Des fois, préférer la chose exprimée à la chose vécue. L'amour de la vie ordinaire, comme la bouffe, les boissons, etc., très viennois. La promenade, regarder, chercher dans les endroits, dans les visages. Chercher quoi? Je ne l'ai jamais su. Peut-être l'enfance, peut-être un bonheur fugace, mais toujours être à la recherche, toujours insatisfait et convaincu que là, quelque part, il y a un petit moment de bonheur qu'on doit attraper. Mm. Il y a beaucoup d'autres choses dans Vienne. Vienne était quand même une ville très sophistiquée et un mélange formidable, un mélange entre la paysannerie, les petits métiers, l'armée, les juifs et les socialistes, bien sûr, et les fascistes, etc. Mais ce mélange a très bien marché. Hitler a tout détruit. Mais c'était possible de vivre ensemble. Et chacun avait sa chose à faire. Sans les juifs, Vienne n'aurait jamais pu vivre. Toute l'industrie, ne parlons pas de l'esprit et de l'art, mais toute l'industrie était une création juive, à part quelques exceptions. Mm-hmm. Mon père était dans la fourrure, la mode de fourrure, il y avait la mode, tout simplement, une mode viennoise qui était reconnue à travers le monde. Il y avait l'art, il y avait les mécènes qui payaient pour l'art, il y avait des musées formidables. Tous les samedis, dimanches, j'ai dû aller avec mon père voir les musées. J'en avais marre. Mais ça me restait. Hein? Mm. C'était ça. On allait dans le Kunsthistorische, voir l'art, ou Naturhistorische, voir les sciences, la nature, etc. Mais il fallait toujours apprendre, mm. avancer, devenir. Mm. Et ça m'est resté. Mm.
Est-ce qu'il y a beaucoup de livres ici? Est-ce que vous avez vos lectures viennoises favorites encore aujourd'hui?
Oui. Je suis en train de vendre tous mes livres, mais j'ai gardé quelques-uns pour moi. Mm-hmm. Un de ces livres est Karl Kraus, mm-hmm. bien sûr. Mm-hmm. Les dernières journées de l'humanité. Mm-hmm. Ça m'a beaucoup, beaucoup influencé. Aussi ce film, Welcome in Vienna.
Dont vous avez fait le scénario.
Oui. Mm-hmm. Et c'est plein de krauseries.
De krauseries.
Oui, oui. Très important, Karl Kraus, que je n'ai jamais connu. Mm-hmm. J'aurais pu le connaître. Il est mort en 1936. J'aurais pu le connaître, mais c'était défendu. Comme beaucoup d'autres choses dans les belles familles de la haute bourgeoisie juive, on ne parlait pas de Kraus, on ne parlait pas de Kafka et on ne parlait pas de Freud.
Et pourquoi ça?
C'était pas Deschamps. C'est drôle, les trois plus grands viennois, il ne fallait pas en parler. Oui, il ne fallait pas les lire non plus. Oui, c'était une bourgeoisie très de l'esprit assez fermé, ouvert à l'art. Mon père adorait les maîtres de la Renaissance italienne. Il allait toujours en Italie voir des tableaux et des églises. Mais toute cette modernité, la bourgeoisie était contre. C'est comme ça. Par peur, par tradition, et surtout la bourgeoisie s'occupait de ses affaires.
Georg Stefan Troller, est-ce qu'il vous arrive parfois d'être nostalgique?
Oui, bien sûr. Après un certain âge, on revient à son enfance. Par nostalgie, bien sûr, l'innocence, retrouver l'innocence perdue. C'est une occupation majeure de l'âge.
C'est votre façon, au fond, à vous, de continuer à être à Vienne.
Oui. C'est sûrement vrai que plus que d'autres émigrés, réfugiés, les Viennois sont restés fidèles à leur source.
Villemonde-Vienne, la ville de l'esprit. Avec Friedrich Zerra, compositeur, Arno Geiger, Friedrich Mayröcker, Robert Menasse et Franz Schuh, écrivain, Bernhard Leitner, architecte sonore, et Georg Stefan Troller, journaliste. Archives, à voix nue, Elfried Jelinek, 2004. Remerciements à Christa Fallenstein, Michael Hammerschmidt et Peter Stefan Jung. Voix, Anne Kreis et Ariane Zimra. Traduction, Aurélie Lenay, Nathalie Marc et Christine Le Cerf. Coordination, Catherine Libert. Prise de son, Philippe Etienne et Éric Boisset. Mixage, Éric Boisset et Alain Joubert. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Marie-Christine Closet et Véronique Villa. Les voyages Villemonde continuent sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter et podcaster Vienne, Villemonde et toutes nos escales à travers le monde. À Vienne, vivre et laisser vivre et mélanger les contraires, écrivait Zweig sur sa ville dans ses écrits de voyage. Cap au nord-ouest dimanche prochain, vers une île, Villemonde jette l'ancre dans le port de Belfast. Villemonde-Belfast, première escale, dimanche 7 février à 15h. Belfast, une ville en contraire, une ville en oxymore.